Si l'Union européenne est souvent critiquée, c'est entre autres en raison de son fonctionnement. Il peut être perçu, ce fonctionnement, comme opaque, technocratique, pour reprendre un mot utilisé par ceux qui l'attaquent. Et pour mieux l'expliquer, une équipe de journalistes dévoile ses coulisses. Cette équipe a passé près d'un an et demi au cœur du pouvoir européen. Elle a pu suivre au plus près, et c'est inédit, quelques-uns des plus hauts dirigeants européens, à commencer par le président du Conseil, le Belge Charles Michel. Des images rares, réunies dans un documentaire exceptionnel, diffusé ce soir. La diffusion également est exceptionnelle, puisque ce sera en prime time sur France 2. Bonjour Yann-Anthony Noguès.
Bonjour Philippe.
C'est vous qui avez réalisé ce documentaire Bruxelles, ton univers impitoyable. L'Europe, c'est un sujet que vous connaissez bien. Vous suivez les affaires européennes depuis une quinzaine d'années, pour BFM jusqu'en 2015, et puis pour la chaîne France Info aujourd'hui, c'est le canal 27. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans ce documentaire?
Déjà, on a voulu montrer ce que nous, on voit de l'Union européenne. Vous avez dit, l'Union européenne, c'est technocratique, ça embête tout le monde. En règle générale, ce sont des grandes façades vitrées avec des drapeaux. Quand j'étais correspondant pour BFM TV, j'étais là planté avec mon micro et devant l'institution, il ne se passait rien derrière moi. Là, on s'est dit, on va montrer aux gens ce qui se passe dedans, parce que dedans, ce sont des coups de théâtre, ce sont des intrigues, ce sont des rebondissements. C'est 27 cultures, 27 numéro 1 qui s'affrontent pour prendre des décisions qui engagent la vie de 500 millions d'Européens. Et réellement, c'est passionnant, parce qu'en plus, il y a des sacrés personnages.
Ce sont ces 27-là, c'est ce qu'on appelle le Conseil européen, où vous
Absolument.
Avez montré tout plein d'autres choses.
Ce sont des sommets européens. Le Conseil européen, ce sont les sommets européens. C'est au Conseil européen que se rend régulièrement Emmanuel Macron, Angela Merkel. Et on a pu pénétrer dans la salle où Angela Merkel, Emmanuel Macron et les 25 coachs, je faisais mes calculs parce qu'on est passé de 28 à 27 entre-temps, prennent des décisions.
Ce qui est évidemment, vous allez nous raconter comment vous avez réussi ce tour de force de vous faire accepter. Le dirigeant qu'on voit le plus, c'est Charles Michel, ancien Premier ministre belge, devenu président du Conseil européen il y a un an et demi. Alors il a défrayé la chronique à l'occasion du Sofagate. On a beaucoup parlé, c'était en compagnie du président turc. Vous revenez justement sur cet épisode, mais d'abord, pour bien situer les choses, Charles Michel, qui a le rôle d'un médiateur. Il est là pour que les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union se mettent d'accord. Mission évidemment très souvent difficile, le mot est faible. Tout cela armé de son bon sens, de son sens du compromis. Il en faut quand on dirige la Belgique.
Et du bon sens aussi.
Voilà, parce que déjà il y a plusieurs langues en Belgique. Et également armé d'une clochette. C'est ce que vous raconte le correspondant de Libération à Bruxelles, Jean Quatremer.
Son seul pouvoir constitutionnel, c'est le seul qu'il ait, c'est organiser l'agenda et une clochette. Une clochette pour ramener le silence dans la salle. Donc tout le monde est en train de s'engueuler. Ding, ding, ding. Messieurs, messieurs, restons calmes. Bonne chance pour dompter 27 fours avec sa clochette. Ding, ding.
Ling Ling, il a un rôle vraiment important, ça va au-delà de cette anecdote, le président du Conseil, où c'est semi-honorifique comme
titre. Alors, Philippe, vous avez dit c'est un médiateur. Oui, c'est un médiateur, en fait c'est un facilitateur d'accord. Sans lui, les 27, quand ils se retrouvent dans la salle, là, ils vont vraiment s'écharper. Lui, ce qu'il fait pour préparer les réunions, c'est qu'il parle avec chacun d'entre eux. Il va les voir, il leur téléphone. Maintenant, en l'occurrence avec le Covid, ça se fait plutôt par visioconférence et par téléphone. Et il essaye de comprendre ce qu'eux ont en tête. Quelles sont leurs préoccupations nationales? Que pense leur opinion publique? Que pense leur parlement? Que pense leur presse? Et jusqu'où ils sont prêts à aller vers un accord. Ouais. Vers un accord pour le climat, vers un accord pour le fonds de relance, vers un accord sur les vaccins. Et donc, tout ça sont des enjeux très importants. Et c'est un facilitateur. C'est pas un grand président. C'est pas le président des États-Unis. L'Europe, c'est pas une fédération. Lui, il est là. Enfin, sur le papier, c'est un président. Mais ce que je veux dire, c'est que son rôle, c'est pas d'être un grand leader charismatique. Son rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait des accords au niveau européen avec la règle de l'unanimité. C'est-à-dire que s'il y a le moindre pays qui bloque et qui ne veut pas d'un accord, il n'y a pas d'accord.
Ne vous inquiétez pas, on va parler des Polonais tout à l'heure. Charles Michel, vous l'avez suivi pour son premier Conseil européen. C'était 10 jours seulement après sa prise de fonction. Face à lui, 27 dirigeants, dont certains évidemment vont le tester. C'est le cas du Premier ministre hongrois, le populiste Viktor Orban. Que se passe-t-il à ce moment-là? Racontez.
Viktor Orban, vous voyez un petit peu qui c'est. C'est un nationaliste. C'est vraiment une des têtes dures en Europe. Et c'est le premier sommet de Charles Michel. Il ouvre la réunion. Il dit voilà, et comme la tradition veut que il accueille chacun. Et ceux qui viennent d'être réélus ou ceux qui viennent d'être nommés à la tête de leur gouvernement, il dit félicitations à un tel pour sa reconduction. Et il donne les noms. Et puis là, il y a Viktor Orban qui dit Charles, tu n'as pas cité Mateusz, qui est le premier ministre polonais et qui est un peu un de ses alliés autour de la table de droite dure. Et du coup, il l'interpelle tout de suite, il le bloque alors que ça faisait à peine 20 secondes qu'il parlait. Et là, il y a des invectives, il y a Emmanuel Macron qui dit « Si, si, Charles a mentionné Mathéus et il l'a félicité ». Il y a Xavier Bettel, qui est luxembourgeois, qui dit « Oui, oui, il l'a dit, il l'a dit ». Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les coalitions. Là, ces trois-là, Bettel, Macron et Michel, ce sont trois libéraux, ce sont trois francophones. Ils se serrent les coudes, alors que le Hongrois, lui, il aidait le Polonais. Donc, ils se tirent tous dans les pattes et on croit que c'est une instance diplomatique, où c'est « cher monsieur, monsieur le président », etc. Non, pas du tout. Ils se tutoient, ils s'appellent par leur prénom et ils se lancent des mots d'oiseau.
Voilà, voilà ce que ça dit des rapports entre les uns et les autres, au-delà du bizutage. Qu'est-ce qui se passe une fois que les micros sont fermés, que les caméras sont parties et que les portes sont fermées?
Ben c'est ça qu'on a vu là. Normalement, les portes sont fermées. Notre caméra était là et vraiment, ils se disent les choses cash. Alors, ils ne se voient pas que dans cette grande salle. Ah. Une grande partie des négociations, ça se passe en bilatéral. Ça se passe dans le bureau de Charles Michel, dans lequel on a pu filmer. Ça se passe dans les salles de délégation. Et parce qu'à 27, c'est difficile de négocier. Donc, ce qu'ils font, c'est un premier tour de table. Chacun donne sa position. Et puis ensuite, ils se réunissent en groupe. Et là, pareil, ça castagne. Et après, une fois qu'ils arrivent à des compromis, eh bien, ils se retrouvent à 27, ils les mettent sur la table, ils proposent, il y a encore un tour de table, etc. C'est comme ça que ça fonctionne.
Juste un mot, un petit compliment. C'est incroyable la manière dont c'est parfois pénible, les sujets sur l'Europe, et la manière dont c'est passionnant, celle avec laquelle vous racontez ceci, Yann Anthony Noguès.
C'est grâce à Jean Quatremer et à son talent aussi dans le documentaire.
Ce sont les intérêts nationaux qui priment, on l'a bien compris, et tout l'enjeu pour Charles Michel, on y revient, est de les concilier avec les intérêts de l'Union Européenne. Exemple, avec les discussions qui ont été menées au sujet du climat, on est fin 2019, il y a 26 des 27 membres de l'Union qui sont prêts à prendre des engagements contraignants pour atteindre la neutralité carbone en 2050, tous sauf un, celui qui résiste, c'est la Pologne qui utilise encore beaucoup de charbon pour produire son électricité.
80%.
Voici le récit du Premier ministre polonais et de Charles Michel.
Ça va moins bien que ce que j'avais espéré. Je vois que dans la dynamique de la réunion, les réticences polonaises attendues deviennent des résistances.
Je ne veux pas de licenciements massifs provoqués par une fermeture trop rapide des mines de charbon.
Ça s'oriente plutôt vers un durcissement de la position. Et c'est en ça qu'elle se vit dans la dynamique de la réunion. J'ai l'impression que je dois parler en tête à tête avec le Premier ministre polonais. Il est fermé et il me donne l'impression qu'il n'a pas de marge de manœuvre.
26 sur 27, c'est comme si on était à 0 sur 27 si la Pologne ne veut pas signer. La situation est tendue, rien n'est fait, mais quelques heures plus tard, la situation se débloque.
Le président du Conseil européen marche vers la salle du Conseil où les 26 autres chefs d'État sont en train d'attendre. Et au même moment, le Premier ministre polonais arrive et se dirige dans l'autre direction parce qu'il souhaite avoir à nouveau un tête-à-tête. Ce chassé-croisé est cocasse, mais cela montre clairement à quel point tout est très soudain et changeant.
On a un aparté assez bref. Et là, j'ai une réponse qui me permet de retourner en salle et de faire une proposition.
On a aussi entendu le porte-parole de Charles Michel. Qu'est-ce que cette séquence raconte des négociations à Bruxelles? Comment les choses peuvent se libérer, se dénouer?
En fait, ce qui est fou, c'est que les intérêts en jeu sont énormes. Quand on parle de la neutralité climatique, ça, d'ici à 2050, ça révolutionne une économie. Et on se rend compte qu'il y en a, il y a une grande partie de ces négociations, de ces discussions qui tiennent au rapport humain, qui tiennent aux liens qui ont pu être tissés entre Charles Michel et le Premier ministre polonais avant cet entretien, et qu'après, si jamais il se loupe dans les couloirs, si jamais... parce qu'on voit dans le documentaire un moment où Charles Michel essaye d'appeler le Polonais, et le Polonais ne lui répond pas au téléphone, et on a pu filmer ces images-là, et c'est fou. Et ce sont des choses qui nous arrivent au quotidien, mais on ne se dit pas qu'entre les chefs d'État, ouais, ça arrive aussi.
Vous dites qu'il y a des sommes en jeu énormes, il y a l'argent qui facilite pas mal de choses, parce que là, en l'occurrence, les 27 devaient se répartir 1000 milliards d'euros d'aide à la transition écologique.
Alors, 1000 milliards d'euros, effectivement, c'est le budget européen sur 7 ans. Là, les Polonais, eux, mettaient la barre très haut. Ils disaient « Ah, nous, ça va nous coûter 700 milliards d'euros pour pouvoir faire cette transition écologique, parce que nous, on part de plus loin que les autres. » Et puis, finalement, l'enveloppe qui est mise sur la table pour la transition, c'est une centaine de milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent.
Il y a eu des négociations très tendues sur le climat, mais pas seulement. Il y a eu l'affaire des vaccins, il y a eu l'affaire du Sofaguette. Vous êtes au courant de tout, ou presque, Yann Anthony Noguès. Oui, très beau documentaire ce soir en prime time sur France 2, c'est assez rare. Pour être signalés. On continue d'en parler dans Culture Média. Belle. Bruxelles, ton univers impitoyable, documentaire à voir ce soir sur France 2 à 21h, réalisé par Yann-Anthony Nogues, notre invité. Il y a une partie de ce doc consacrée à l'Europe, consacrée spécifiquement au fonds de relance. C'est qu'en s'étonnant, vous êtes à l'Elysée avec Emmanuel Macron et vous filmez une réunion en visioconférence avec Angela Merkel, qui a priori ne vous voit pas. Et là, on se dit, mais comment vous avez pu garder une telle séquence au montage? Personne en Allemagne, personne à l'Elysée vous a dit, il faut couper cette séquence?
C'est difficile de faire ces choix-là. Ce qui a été difficile aussi, c'était quand on était dans le bureau de Charles Michel et qu'effectivement, on est les témoins de beaucoup d'échanges confidentiels. Il y a certaines parties qu'on ne peut pas laisser parce que c'est trahir la confidentialité, c'est trahir la confiance qui nous est donnée. En fait, on tourne un petit peu comme si on était dans un cabinet d'avocat ou dans un cabinet médical. C'est-à-dire qu'il y a des informations qu'on ne peut pas divulguer. Après, il y en a d'autres qui font partie du domaine public. C'est de la stratégie.
Il y a un hiatus intrinsèque, parce que si on vous laisse filmer, ça veut dire que vous filmez. Donc dans ce cas-là, on ne vous laisse pas filmer. Comment ça se joue les gens?
C'est-à-dire que moi, en fait, pour pousser... C'est assez inédit ce qu'on a pu faire.
Je sais. Donc, d'où ma question.
La façon dont on a obtenu cette confiance, notamment au Conseil européen, c'est en disant « laissez-nous filmer, on fera preuve de responsabilité, de discernement, on est là pour raconter une histoire, on n'est pas là pour faire de la géographie, attention, on n'est pas là pour dire à quel point vous êtes formidable, on n'est pas là non plus pour faire de la dénonciation, on n'est pas là pour regarder tout ce qui ne va pas et pour retourner les choses contre vous, on est là pour raconter une histoire et on avait un accord, en gros, c'était ne pas dévoiler des choses qui puissent, avant la conclusion de l'accord des Européens pour le coup, ne pas dévoiler des choses qui puissent perturber la négociation.
Vous revenez également sur un autre dossier de la crise sanitaire, celui des vaccins, dossier à enjeu présenté dans votre film par le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel.
Le moment de vérité qu'on pourra avoir pour le Covid, c'est le moment du vaccin. Si chaque pays dit « ce sera mon pays d'abord pour vacciner ma population totale », on est mal barré. Si on arrive à dire « l'Europe est là » et « l'Europe achète les vaccins » parce que l'Europe sera beaucoup plus fort que si moi je dis « je vais acheter tout seul » parce que dans ce cas-là, on va rentrer dans une surenchère en plus où certains pays vont dire « moi je paye 10, moi je paye 100, moi je paye 1000 pour être le premier ». Je pense que là, c'est un moment où l'Europe peut vraiment montrer sa plus-value.
Et cette plus-value, l'Europe va finir par la porter après un démarrage difficile. Ça s'est passé comment? Ça vous fait sourire,
oui,
un démarrage difficile?
Parce que c'est le lièvre et la tortue, cette histoire de vaccin. Parce que les Britanniques, eux, ils sont allés très vite. Tout simplement parce que les Britanniques, malgré le Brexit, simplement parce que les Britanniques, ils ont accepté toutes les conditions des labos. Ils ont signé très vite avec les labos. Ils ont mis beaucoup de cash sur la table, alors que les Européens, ils ont fait un achat groupé. C'est la Commission qui a négocié pour les 27. Mais ils ont dit, attention, on a des lignes rouges. Attention, ça doit ne pas être cher. Attention, si jamais il y a des effets secondaires, ce seront les labos qui porteront la responsabilité. Attention, on ne vous donnera pas toutes les données personnelles des Européens. Alors que les Israéliens, les Américains, les Anglais, eux, ils ont tout lâché. C'est pour ça que c'est allé si vite. Mais après, voilà, l'Europe, il y a le principe de précaution, il y a la responsabilité, il y a la prudence. Et c'est pour ça que parfois, c'est un petit peu plus long.
Et ça encore, pendant qu'on s'énervait ici devant la télé, ces choses-là n'étaient pas dites. Ou alors, il fallait trouver ça en page 28 de tel ou tel journal.
C'est pour ça qu'on fait des documentaires pour expliquer ça.
Passionnant. Dernier sujet abordé dans votre documentaire, le Sofaguette. Alors, je rappelle les faits, un incident qui est intervenu il y a un mois, Ankara, lors de la visite en Turquie de Charles Michel, le président du Conseil dont on a parlé, et d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Ce qui est différent, il y a le Conseil, la Commission. Les deux dirigeants sont reçus par le président turc, ils entrent dans une grande salle pour discuter, et le reste est raconté par Maya de la Baule et les journalistes pour Politico, et par Jean Quatremer.
On voit clairement Charles Michel se précipiter vers un fauteuil, et on voit la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, sidérée de découvrir qu'elle n'a pas de fauteuil.
C'était très fort, c'était le dis donc, je comprends pas ce qui se passe là, les amis, il faut que ça change, enfin, réveillez-vous.
L'image est désastreuse, elle continue de poursuivre Charles Michel, mais ce qu'elle montre, cette image, une femme humiliée par deux hommes, ne correspond pas tout à fait à ce qui s'est réellement passé et ce que vous racontez. Pourquoi Ursula von der Leyen s'est-elle retrouvée dans cette position?
C'est un vrai moment House of Cards, ça. C'est Ursula von der Leyen, quand on ne connaît pas vraiment les personnages, on se dit « Oh, cette pauvre dame qui se retrouve là face à ces deux messieurs. » Mais je veux dire, c'est une dure Ursula von der Leyen. Et en fait, elle s'est retrouvée là et elle s'est dit « Je vais saisir le moment politique pour pointer du doigt l'attitude du Turc, de l'autocrate turc qui est sorti de la Convention d'Istanbul. » Enfin bref, il y a des problèmes de rapport homme-femme. Et de Charles Michel, avec qui elle est dans une course à l'échalote, parce que vous l'avez dit, il y a le Conseil européen et il y a la Commission européenne. L'un représente les États, l'autre, c'est l'intérêt général, c'est le gouvernement européen. Et elle, elle ne veut pas que Charles Michel ait la prééminence sur elle. Ça l'embête que ce soit lui qui soit à côté du président turc. Elle voudrait que les deux chaises soient côte à côte. Mais elle est en retrait protocolairement. C'est la règle. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas envoyé à Ankara, avant cette visite, son propre service du protocole. Donc, la visite n'a pas été bien préparée pratiquement, concrètement, de son côté. Elle se rend compte du problème sur le moment et elle joue magnifiquement le coup politiquement. Et elle joue les réseaux sociaux, elle joue l'image. Et...
Vous voulez dire qu'elle voit ça et qu'elle se victimise, en quelque sorte ?
Je pense, je ne suis pas dans sa tête, mais clairement oui, parce qu'ensuite, dans les semaines qui ont suivi, parce que ça s'est passé il y a 3-4 semaines... Mmh. Elle n'a pas pris Charles Michel au début au téléphone. Et puis à chaque fois qu'elle est passée devant le Parlement européen, elle a joué le côté outragé et elle a dit « c'est parce que je suis une femme qu'on m'a fait ça ». Or, ce n'est pas le cas. Protocolairement, c'était sa place. Et si elle préférait une chaise plutôt que le sofa, bah c'est son service du protocole qui aurait dû le dire et il n'était pas là.
Ce documentaire est en réalité une version enrichie d'un film qui avait été déjà diffusé sur LCP fin janvier. Film dont le titre a été changé.
Oui, ça s'appelait Sommet... c'est drôle que vous parliez de ça, Philippe, parce qu'en fait, ça s'appelait Sommet dans les secrets des négociations européennes. Et c'était en vous écoutant, ici, sur Europe 1, j'étais dans ma voiture, et puis j'entends Eva Rock qui dit...
Dans Culture Média.
Ouais, dans Culture Média, et j'entends Eva Rock qui dit... Oh, Philippe, et honnêtement, là, le service de presse LCP m'a envoyé ça, Sommet dans les secrets des négociations européennes. Honnêtement, le titre, j'avais pas envie de regarder. Et puis j'ai regardé, j'ai trouvé ça passionnant. Et là, je me suis dit, bon, on a un souci avec titre. Et c'est pour ça que pour cette version effectivement enrichie, remontée intégralement, pour France 2, eh bien on a appelé ça Bruxelles, ton univers impitoyable. Ça vous plaît ?
Ouais, ça va.
C'est mieux comme titre.
Bon, déjà, on s'en souvient. Vous avez fait une petite référence à Dallas qui avait échappé à personne.
Série.
Ce doc a une histoire étonnante. Personne n'y croyait au début, sauf LCP et la RTBF.
Absolument. C'est Guylaine Chenu, Bertrand Delay du côté de LCP qui ont été très courageux, qui ont cru quand on leur a dit oui, on veut faire quelque chose d'excitant sur l'Europe. Personne n'y a cru. Il y a plusieurs chaînes qui ont refusé le projet et eux, ils y ont cru. Et on leur a dit on va s'inspirer d'une série de Netflix qui s'appelle Drive to Survive qui est consacrée à la Formule 1.
Ah, j'adore.
Ah, vous aimez bien la Formule 1.
Je suis passionné de Formule 1. Et alors, attendez, autre chose que j'ai appris, vous étiez monégasque.
Oui.
Vous appelez Yann Anthony Nogues.
Ah, vous sortez les dossiers là.
Ouais. Vous avez quel rapport avec Anthony Nogues ? Je précise qu'il est l'un des virages les plus célèbres du circuit de Monaco.
C'est le 19e virage, c'est le dernier virage. Effectivement, il porte le nom de mon grand-père qui a créé le Grand Prix de Monaco, le rallye qui a inspiré le drapeau à damier.
Non, j'en reviens pas. Je ne m'attendais pas du tout à ça.
D'où le lien entre la Formule 1 et la politique européenne.
Merci beaucoup, Yann-Anthony Nogues. Donc, merci Eva Rock. Bruxelles, ton univers impitoyable, c'est le titre à voir ce soir sur France 2 à 21h. Documentaire suivi d'un débat présenté par Francis Letellier dans le cadre d'une semaine spéciale Europe sur France Télévisions. L'Europe, il en sera également question sur Europe 1. La radio porte bien son nom. Demain, Historiquement Vôtre sera entièrement consacré au sujet. Mathieu Noël et Stéphane Bern vont recevoir Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Merci monsieur le petit-fils, j'en reviens pas, de parler un petit morceau d'histoire, un petit morceau.